Pour ce deuxième bloc des héros anonymes, nous avons une belle histoire touchante, drôle et c'est une histoire dans laquelle on rit, mais on rit jaune parfois. C'est celle, le récit d'un clown humanitaire, Guillaume Vermette, qui est avec nous. Et si vous avez déjà vu le film Patch, en fait Patch Adams, qui a été personnifié par Robin Williams, vous savez l'univers dans lequel nous allons plonger dans quelques instants. Bonjour Guillaume.
Bonjour Chantal, merci de me recevoir sur votre émission.
Guillaume alias, c'est Yahoo le clown?
Oui, c'est un nom que j'ai utilisé souvent en clown à travers les années.
Et là, je parlais de Patch, Patch Adams en partant. Vous rêviez de lui parler, puis c'est arrivé, puis là vous êtes parti sur les routes avec lui.
Oui, c'est un bon ami, c'est un collègue aujourd'hui. Mais là, ça fait 18 ans à peu près que je suis clown humanitaire. Mm. Puis c'était pas facile de commencer comme clown humanitaire. C'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 18 ans. Et dès que j'ai eu ce rêve-là, je me suis lancé là-dedans. Ça fait 18 ans depuis l'âge de 18 ans.
Oui, c'est ça que je pensais.
Oui, c'est la moitié de ma vie. En plus, j'ai 36 ans, exactement la moitié. Puis au début, c'était difficile. J'ai commencé à être clown professionnel, artiste de cirque, etc. Puis je cherchais des opportunités pour faire le côté plus humanitaire, thérapeutique, social. J'appelais des CHSLD, des hôpitaux, puis tout le monde me revirait de bord. Personne ne comprend c'est quoi du clown humanitaire. Mm. Ben, personne ne comprend c'est quoi du clown tout court. Encore moins du clown humanitaire.
Il y a même des gens qui ont peur de vous, les clowns.
Oui, ben, il y a une mode là, de films d'horreur, mais en tout cas, tout le monde me retournait de bord, puis je ne savais plus quoi faire. Puis à un moment donné, une amie avec qui je suis allée à l'école de clown, l'école de théâtre clownesque, qui me dit, appelle-lui. Mm. Elle m'a donné le numéro de téléphone de Patch Adams, le véritable Patch Adams. Puis moi, je ne comprenais rien. Je dis, de quoi tu parles? Tu veux j'appelle Robin Williams. Je savais pas qu'il existait pour vrai.
Ah, vous saviez pas que c'était un récit biographique?
Non, je sais plus à quel point j'en étais conscient, mais c'est important, je sais, parce que c'est en quelque sorte lui qui a inventé ça, le clown humanitaire ou le clown thérapeutique. Puis fait que j'avais le numéro de téléphone d'une célébrité, de la personne qui a inventé le métier que je rêvais de faire.
Ouais.
Je l'ai appelé, j'étais tout stressé là, de mes 18 ans, là, je parlais mal en anglais, puis il m'écoutait, il faisait puis j'étais chanceux que ce soit lui, il est toujours en voyage humanitaire, puis à la fin, il m'a tout simplement invité, il m'a dit « Hey, pourquoi tu viendrais pas en Russie avec moi? Why won't you come in Russia with me? » Puis ça a été le début d'une relation avec plein d'étapes, et on a fait quelques dizaines probablement de voyages ensemble dans toutes sortes de pays, d'orphelinats, de camps de réfugiés, etc. Et j'en suis là 18 ans plus tard, et c'est toute ma vie, c'est ma vocation, c'est mon travail, c'est ma passion.
Patch vous a fait tout un compliment. Il vous a donné un nom. Il a dit que vous étiez un vibe master.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est un vibe master?
Je suis pas le seul à qui appelle un vibe master. C'est qu'à un moment donné, j'ai remarqué que Patch m'invitait beaucoup dans ses projets. Je me suis dit, pourquoi moi? Tu sais, tu connais tellement de monde. C'était un célèbre clown qui connaît des centaines, des milliers de clowns sur la planète, probablement. Pourquoi? Il dit, moi, écoute, ma façon de gérer mes ressources humaines, ma façon de choisir mes équipes de travail. Tu sais, quand il manque un réfugié, souvent c'est 10, 20, 30, des fois jusqu'à 40 personnes à peu près. Des grosses équipes. Puis je m'assure que tout le monde dans l'équipe soit un vibe master. Si tout le monde est un vibe master, ça garantit le succès de mon projet. Selon lui, c'est même ça fonctionne. Un vibe master, c'est un terme qu'il a inventé. C'est un maître de l'ambiance, la traduction littérale. Mais c'est-à-dire que pour lui, c'est quelqu'un, je vais essayer de me rappeler les mots exacts, qui est happy, funny, creative, thoughtful, caring.
Ouais.
Donc, quelqu'un qui est joyeux, drôle, réfléchi, bienveillant. Puis là, j'en oublie.
Créatif,
merci.
Ouais.
Donc, il m'attribue ces caractéristiques-là, mais j'avoue que je me vois quand même dans ces caractéristiques-là. Mm. Puis il dit que c'est pour être un clown mentor, faire une bonne équipe de clown mentor, c'est les qualités que ça prend selon lui. Et c'est difficile de le contredire parce que ça se passe toujours bien.
Ouais.
Les équipes, c'est vraiment le fun travailler avec sa gang.
Guillaume, amenez-nous sur le terrain. Là. Comment ça se passe là, quand toute cette armada de clowns arrive dans un camp de réfugiés?
c'est excessivement varié et il n'y a pas une façon de faire. Tu sais, parce que le mot humanitaire, clown humanitaire, ça ne veut pas dire grand-chose, le mot humanitaire. Ça veut juste dire que tu... Ben, ça veut dire beaucoup, là, mais dans le sens qu'il n'y a pas une façon de faire du clown humanitaire. Tu réponds à un besoin fondamental, un droit fondamental humain, par exemple, des gens qui fuient la guerre, c'est une crise humanitaire, c'est un besoin humanitaire. Ensuite, il n'y a pas une école de clown humanitaire. Il y a des écoles de clown, de type de théâtre. Mm-hmm. Donc, puis même là, ça peut varier. Il y a plusieurs approches dans le milieu. Donc, n'importe quel métier peut être humanitaire, avocat humanitaire, comptable humanitaire, mais la façon de le faire varie énormément d'une personne à l'autre. Pas toujours qu'il y a le même code d'éthique, qu'il y a la même façon, la même démarche. Puis moi, j'ai travaillé avec des dizaines d'organismes. Maintenant, j'ai mon propre organisme, ça s'appelle la Caravane Philanthrope, pendant 18 ans. Donc, les façons de faire sont très différentes. Donc, je vais me concentrer, je pense, de vous parler de notre organisme, à nous, la Caravane Philanthrope. Comment qu'on fonctionne. Puis encore là, on a des projets humanitaires en international, mais on est aussi en itinérance, en CHSLD, puis les enfants vulnérables au Québec, etc. Puis chaque milieu où on va est une approche avec ses gens, est unique avec ses enjeux et sa façon de faire. Mais en camp de réfugiés, généralement, notre façon de faire, on utilise une approche qui nous vient d'un organisme qui s'appelle les Flying Seagull Project, qui vient d'Angleterre, qui est, à notre avis, la Caravane Philanthrope, les meilleurs dans le domaine du clown humanitaire. Et on s'inspire de leurs démarches qu'on a adaptées à notre façon, qui sont des jeux en cercle. Donc, on travaille avec des enfants en cercle. Les enfants, si on a choisi pour les enfants, ça pourrait être d'autres choses. Les enfants qui ont connu la guerre, qui ont connu la violence, qui ont toutes sortes de traumatismes puis d'émotions négatives accumulées avec les années, qui sont souvent même pas disposés psychologiquement, cognitivement, pour juste être assis puis regarder un spectacle. Ils ont été entourés de violence, souvent ils deviennent violents eux-mêmes. Ouais. L'agressivité qui sort, c'est explosif. Ils savent plus, même les adultes savent plus comment gérer souvent dans cette situation-là d'être un réfugié, ils sont dépassés par la vie. Mais là, eux, en plus, ils comprennent moins. C'est des enfants, ils ont des moins bons parents que d'habitude parce que leurs parents sont trop occupés à survivre.
Ça, c'est quand leurs parents sont toujours là.
C'est ça. C'est hyper compliqué. Fait qu'on va débarquer dans un camp de réfugiés et on va essayer de revenir autant que possible à chaque jour dans le même camp de réfugiés aussi longtemps que possible. On est les plus structurés de l'humanitaire parce que l'enfance, c'est précieux, ça a besoin de structure. On fait les mêmes rituels à chaque jour. À la même heure, on commence les mêmes jeux avec cette démarche-là où on n'a pas besoin de mots. Dans un camp de réfugiés, il peut y en avoir qui parle arabe, il peut y en avoir qui parle perse, qui parle français, qui parle un dialecte africain, par exemple. Donc, il faut pouvoir expliquer les jeux simplement par les émotions, par des sons, par des mouvements. Et le clown est un outil extraordinaire pour communiquer sans parole. Et ces jeux-là sont réfléchis. Ils peuvent avoir l'air bien anodins vu de l'extérieur ou enfantins. Mais ils sont enfantins parce que les enfants jouent. Les adultes aussi peuvent avoir du plaisir. Mais ils sont réfléchis pour que tout le monde puisse participer, peu importe tes capacités physiques, cognitives, etc. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, en respectant son rythme, lorsqu'il est prêt, aura l'occasion de s'exprimer à un moment dans le jeu, d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa créativité, d'offrir des espèces d'un moment d'enfance normale à travers l'enfance qui a été bouleversée pas mal. Et aussi, tout le monde va vivre un succès. Et tout le monde va se faire applaudir, valider, féliciter par les gens dans le cercle. Donc, tout ça, c'est réfléchi en gros pour être thérapeutique, pour contribuer à leur estime de soi, à leur confiance en soi, mais surtout à la guérison de leur traumatisme. Puis c'est à force de répétition de revenir à chaque jour dans les mêmes camps, faire ces mêmes jeux-là, qu'on voit des changements souvent qui sont énormes dans le comportement puis le bien-être des jeunes.
Ah oui? Qu'est-ce que vous observez comme changement dans le comportement?
C'est des enfants qu'on dirait qu'ils avaient oublié comment être des enfants souvent, quand même parfois oublié comment rire, comment sourire, comment jouer, puis qui petit à petit retrouvent ça. Mais tu sais, pour donner des exemples plus précis, je me rappelle par exemple d'un jeune dans un camp de réfugiés en Grèce, à Samos, qui je pense s'appelait, si je me rappelle bien, Mohamed, il était tout petit, en plus, il avait peut-être 3 ans, hyper violent à cause de tout ce qu'il vivait. Son père était décédé, il vient de fuir la guerre, etc. Il faisait des crises gigantesques. Il dormait pas de la nuit, il frappait sa mère. Sa mère était dépassée, elle savait plus quoi faire. Puis après quelque chose comme 5 jours qu'on était présents avec nos jeux dans le camp de réfugiés, ben, il frappait plus sa mère. Il allait se coucher de son plein gré, même avant que ça m'arrive.
On a de la difficulté à coucher nos enfants au Québec.
Il allait faire son lit, puis tout, puis il disait, écoute, préparer ça pour aller dormir, genre, puis il disait, maman, il faut que je me couche, il faut que je sois en forme pour l'activité avec les clowns.
Ah ouais. Hein. Mais là, c'est qu'ils vous espéraient, ils avaient quelque chose à attendre, quelque chose à espérer.
Oui, mais il y avait enfin une place où il se sentait vu, où il se sentait qu'il avait le droit de s'amuser, où il se sentait en sécurité aussi. Puis en sécurité, oui, physique, mais émotionnelle aussi. Donc, je pense que c'est très précieux, ces moments-là, ces espaces-là qu'on offre en camp de réfugiés. Puis parfois, ça change des vies.
Puis Guillaume, il arrive quoi quand vous partez? Comment ils vivent ça, ces enfants-là?
Ah, ça, c'est la fameuse question déchirante vit nous autres aussi. Mais c'est pas faut pas que ça nous empêche de y aller, parce que ça reste positif ce qu'on amène comme contribution. C'est sûr que des fois, on aimerait ça rester plus longtemps, on aimerait ça être là à l'année, mais il y a plein de raisons logistiques, financières qui nous empêchent ça. Ce qu'on essaye autant que possible, c'est de collaborer avec d'autres organismes, soit d'autres organismes comme nous, comme par exemple, je nommais les Flying Seagulls tout à l'heure, qui est un organisme d'Angleterre. On va collaborer avec eux, notamment, ou encore des clowns qui sont du pays où on va, des clowns locaux. Comme on vit ça au Mexique, on va à chaque année au Mexique dans les camps de réfugiés à Tijuana, au nord du Mexique, à la frontière des États-Unis. Mais on collabore avec des artistes locaux pour qu'une fois qu'on part, eux puissent retourner dans les camps et continuer ce qu'on fait. Et on partage avec eux nos connaissances, notre démarche, notre expertise.
Ah oui, c'est bien. Est-ce qu'ils vous donnent des nouvelles des enfants?
Oui, ouais. On est au courant dans communication constante.
Oui. Guillaume, vous avez décidé d'en faire un récit, un livre. Ça s'appelle Un sourire à la fois. On vous voit sur la photo avec un enfant. D'ailleurs, là, un enfant qui a une moustache. Et là, vous dites qu'il y a quelque chose de mystérieux dans les camps de réfugiés. On voit souvent des moustaches chez les enfants. Est-ce que c'est parce, justement, ils sont rendus des adultes?
Non. Ça fait la photo que tu parles en ce moment. Ça.
Oui.
C'est une petite fille qui est, c'est drôle, parce que c'est la première camp de réfugiés où je suis allé de ma vie, le premier enfant que j'ai vu dans un camp de réfugiés toute ma vie, donc c'est vraiment significatif pour moi. Mais cette petite fille-là, elle a comme une fausse moustache au crayon feutre, là, de fait dans le visage, puis ça a été long en lisant mon livre, j'en parle à un moment donné, mais vous allez le découvrir si vous lisez mon livre, mais j'ai... Elle me demandait pourquoi il y a toujours.
Oui, c'est ça.
Un enfant, je tourne un coin, là, à couper une tente de camp, un autre enfant qui a une fausse moustache. C'est quoi ce mode-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait dans notre équipe à ce moment-là, c'était l'équipe de Patch Adam, un monsieur qui s'appelle Carl Armerschlag, qui est un psychiatre des États-Unis, un bon ami à moi, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, je crois, qui lui offre des services de thérapie gratuitement dans les camps de réfugiés. Donc, il joint à notre équipe pour venir s'asseoir, puis n'importe qui vient faire la file, des adultes qui font la file, puis viennent lui parler avec un traducteur, demander son aide psychologique. Mais souvent, il y a des enfants qui se promènent alentour, puis qui ne comprennent pas tout à fait, qui ne peuvent pas, venir en plein milieu de la thérapie. Fait que sa manière de faire, c'était juste pour donner quelque chose à l'enfant qui soit satisfait, puis qu'il reparte, c'est qu'il y avait une feuille avec plein de modèles de moustaches. Un crayon feutre, c'est un espèce de stencil, je pense. Il faisait une moustache, l'enfant est content, il s'en va, puis là, il avait la paix pour continuer sa thérapie. Fait que c'est juste ça.
Tu as créé un petit lien avec lui, donc déjà un geste de partage, un geste de lien.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui vous amenait à écrire ce livre?
J'ai eu l'idée de l'écrire en mai 2016, je crois. Je sais. Alors que je partais d'un endroit qui s'appelle Idomeni, qui est en Grèce, au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. J'étais en réaction face à ce que je venais de vivre. Une des expériences les plus marquantes, fâchantes, troublantes, pleines d'injustices, d'une situation pleine d'injustices dont j'ai été témoin, qui était la réalité des réfugiés à ce moment-là, à cet endroit-là. Mm. C'était une violence, à mon avis, systémique, politique, économique sur ces réfugiés-là. Et je me demandais, je ne pouvais pas garder ça pour moi, il fallait que j'en parle. Donc, au début, c'était vraiment, ma démarche d'écriture de l'air était vraiment avec cette impression-là de « il faut que j'en parle ». J'avais l'impression que j'avais un devoir, une responsabilité, parce que j'ai vu, il faut que les gens sachent que je le fais pour les autres. Mais plus je me suis mis à écrire, plus je me suis rendu compte que non, C'est pas vrai. Je pouvais me faire croire ce que je voulais, mais je l'écrivais pour moi.
C'était thérapeutique d'une certaine manière de se raconter comme ça.
Ah, je n'avais tellement besoin, puis j'en étais pas conscient. J'avais besoin de m'arrêter, de faire un step back, un pas de recul pour analyser, revenir sur toutes ces expériences que j'avais vécues, parce qu'à cette époque-là, je voyageais à temps plein, bénévolement à temps plein comme clown humanitaire. C'est beaucoup d'événements, des fois des événements traumatisants, c'est beaucoup d'émotions que je n'ai pas vraiment pris le temps de m'arrêter pour digérer. Et je pense que ce livre-là a servi à ça, de prendre un pas de recul, puis de tourner la page, c'est un livre, mais littéralement, on tourne littéralement des pages, mais c'était aussi moi, émotionnellement, tourner la page, passer à une autre étape, puis une nouvelle pratique du clown humanitaire qui est peut-être plus équilibrée et saine pour moi, parce que c'était trop à ce moment-là.
Ben justement, on va prendre un petit pas de recul, Guillaume, on prend une courte pause et on poursuit notre entretien qui, ma foi, est vraiment passionnant aux héros anonymes.
Merci beaucoup.
Retour pour ce deuxième bloc des héros anonymes. Nous sommes en fait le deuxième bloc de notre entretien avec le clown humanitaire Guillaume Vermette qui a couché sur papier toutes sortes d'émotions et un récit de son pèlerinage comme clown humanitaire dans divers pays. Ça s'appelle Un sourire à la fois. C'est publié aux éditions La Galère et ça m'a beaucoup touchée. Guillaume, tu racontes aussi des rencontres spéciales avec certains clowns humanitaires qui t'ont marqué à différents endroits. J'imagine que c'était toutes des vibe masters.
oui, peut-être, pas nécessairement, mais c'est toutes des belles personnes en tout cas.
Oui.
Je collectionne des humains en fait, puis c'est pas juste des clowns, puis ils sont pas dans mon sous-sol.
Merci de la précision.
ils sont tous consentants, mais j'ai une collection d'humains extraordinaires, d'humains ordinaires extraordinaires, comme j'aime les appeler. Puis j'étais même pas dans l'intention d'écrire quoi que ce soit, un livre au départ, ça s'est fait naturellement parce que j'aime les gens, j'aime les histoires inspirantes de gens qui font des belles choses pour changer le monde à leur façon quotidienne dans l'ombre.
Guillaume, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. On partage la même passion.
On se comprend.
Oui.
Puis, quand j'en rencontrais comme ça dans mes voyages un peu partout sur la planète, je suis dans plus d'une quarantaine de pays, il faudrait plus une même
chose.
Mais c'est tellement passionné. Je disais, hey, peux-tu te poser des questions? Je peux-tu prendre des notes? Ça m'intéresse. J'ai accumulé plus d'une centaine de portraits d'humains qui me font beaucoup de bien, qui me motivent, qui m'inspirent à continuer de faire ce que je fais, essayer de changer le monde à ma façon, un sourire à la fois. Puis ça a donné que beaucoup étaient des clowns, mais pas nécessairement. Puis quand j'ai écrit mon livre « Un sourire à la fois, récit d'un clown humanitaire », on dirait que ça allait de soi. C'est comme, c'était pas mon livre, c'est notre livre.
Oui,
de tous
oui.
Ces gens-là avec qui j'ai collaboré pour faire des projets de clown humanitaire. Fait que j'en ai mis une vingtaine. J'avais pas de la place pour en mettre plus, mais fait que les récits de voyage que j'ai dans mon livre sont intercoupés par moments de portraits avec une illustration de la personne, puis un portrait d'à peu près une ou deux pages qui résume ses accomplissements puis son implication généralement dans l'ombre, mais il y en a que c'est pas tout à fait dans l'ombre, il y a quand même Patch Adam là-dedans qui est loin d'être dans l'ombre.
Et on disait avant la pause, il y avait eu un besoin de tourner un peu la page sur une façon de vivre le métier de clown humanitaire. Ouais. Ça a été quoi ce pas de recul? Ça conduit à quoi?
Ben, à ce moment-là, il faut savoir que j'étais bénévole à temps plein. Je voyageais à peu près 10 mois par année comme clown humanitaire.
Puis là, c'est sûr que les auditeurs se demandent, on fait ça comment financièrement?
C'est compliqué. C'est compliqué. D'une part, pour rendre ça possible ou aider à rendre ça possible, j'avais pas d'appartement, pas de maison. J'avais non plus pas de voiture, pas de véhicule. C'était une démarche qui était un peu trop intense avec la distance qui était très rigoureuse de tout ce que je possède entrer dans mon sac à dos. Mm. Si tu me donnais un cadeau, si c'était pas utile, je disais non merci. Mm. Parce que ça va mettre du poids sur mon sac à dos. Puis j'ai un poids limité que je peux mettre là. Donc c'était vraiment rigoureux là-dessus. Puis c'était trop. C'était trop. Puis pour tu me demandais aussi comment je faisais. Ben ça, c'est d'une part, mais financièrement, ça reste que il fallait que je paye des billets d'avion. Oui, les organismes, des fois, me payaient de l'hébergement ou des gens m'accueillaient des locaux ou encore j'avais des repas payés par les organismes des fois, mais la plupart du temps, les billets d'avion n'étaient pas payés. Puis c'est grâce à ces histoires-là d'humains ordinaires extraordinaires que je me suis mis à publier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, puis d'autres rencontres inspirantes ou moments inspirants qui m'arrivaient au quotidien, que mon Facebook s'est mis à grossir, mes réseaux sociaux, puis les gens se sont mis à me donner des dons. Puis je faisais entre 6 000 et 16 000 $ de dons par année, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui était suffisant pour combler l'argent qui me manquait pour les dépenses qui n'étaient pas couvertes par les organismes humanitaires. C'est comme si j'étais temps plein, j'avais le travail bénévole de plus humanitaire, mais un autre temps plein en parallèle de financement par les réseaux sociaux principalement. Oui, mais c'était trop, c'était prenant, c'était beaucoup de travail, c'était sans arrêt, c'était beaucoup d'émotions, c'était peu équilibré, peu enraciné aussi, à force de changer de pays toujours, de dire adieu aux gens tout le temps, de changer de maison puis de famille en quelque sorte tout le temps. J'avais la fatigue, la compassion, je me sentais seul, même accompagné. Ouais. J'ai eu un besoin de déposer mon sac à dos, ça s'est passé en 2019, pour essayer d'avoir une vie plus enracinée puis équilibrée. Puis maintenant, je voyage à peu près 3 mois par année, peut-être qu'en voyage humanitaire, le résultat, je fais un travail semblable, mais au Québec, à travers notre organisme, la caravane philanthrope. Comme ce matin, par exemple, j'étais avec des personnes en situation d'itinérance.
Oui. C'est drôle, hein? Vous l'étiez en situation d'itinérance d'une certaine manière.
Non, parce que je l'ai choisi.
C'est plus être nomade, on va dire.
C'est un privilège immense et gigantesque de pouvoir faire le choix « Hey, je vais être bénévole à temps plein. » Dans la majorité des humains de la planète, dans la majorité des pays du monde, ce serait même pas envisageable. Ça paraît complètement absurde.
Ben, surtout pas à ce jeune âge tendre. Là. Souvent, on va voir des retraités qui ont ce projet-là, mais pas à moins de 36 ans.
Non, j'étais dans la vingtaine, effectivement. T'as quand même une part de risque et d'audace là-dedans. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais.
Des fois, c'est mieux de pas le savoir, hein, sinon ça nous empêche de le faire.
Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Je suis vraiment content. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a fait beaucoup de choses en perspective. Puis le côté ne posséder presque rien me fait réaliser quelque chose que ça peut avoir l'air simpliste, là, c'est un dicton, mais je l'aime beaucoup. J'ai envie de le partager. Qu'on passe beaucoup trop de temps à aimer les objets puis à utiliser des humains, puis passer de temps à aimer les humains puis utiliser les objets. Puis ça m'a vraiment changé ma relation avec la consommation, avec les autres et les objets. Et puis je me rends compte aussi que cette démarche-là hyper rigoureuse que j'avais d'être bénévole à temps plein, ben ça venait du fait que j'étais fâché. Je suis fâché, je le suis encore aujourd'hui, mais ça gère mieux. Je suis fâché contre notre société. Je la trouve immensément violente de plein de façons envers plein d'individus puis de groupes d'individus. Oui, il y a les guerres, oui, il y a le racisme systémique, les discriminations de tous les genres dans la société, mais même aussi la violence entre nous, notre façon de se communiquer.
Sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Il y a un appauvrissement, quelque chose de vraiment malheureux qui se passe en ce moment.
Mais je me sens même depuis avant que les réseaux sociaux existent. Depuis que je suis un enfant, c'est quelque chose qui...
C'est clair qu'il y a une hypersensibilité. On le sent en se parlant. Dans le livre, il y a une hypersensibilité qui est là et qui était là tout petit.
J'ai cette colère-là depuis toujours. Et puis, j'ai cette envie de faire quelque chose face à ça. Puis quand je réfléchissais à qu'est-ce qui cause la violence dans la société, puis j'analyse, j'essaie de l'analyser de tous les bords, d'aller au fond de la question. Puis de manière simpliste, on dirait que ma conclusion arrive toujours à peu près à la même chose, ben c'est parce qu'on est dans une société capitaliste. Moi, c'est mon opinion personnelle. C'est à cause de ça.
Individualiste, hein?
Oui, mais l'individualisme est, à mon avis, la conséquence du capitalisme. Bref, je suis devenu très réactif et fâché face au capitalisme et donc face à l'argent. Et j'ai eu besoin de me prouver, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Pas besoin de prouver à moi-même puis aux autres. C'était trop intense. C'était pas viable et durable à long terme. Mais comme je disais plus tôt, je suis content de l'avoir fait. Ça m'a appris beaucoup. Mais j'ai pas le choix. Je fais partie d'une société capitaliste. Qu'est-ce que tu veux? Conjuguer avec.
Mais j'ai évidemment pas voyagé autant. Mais je suis allée en Haïti et je me rappelle du choc culturel en revenant de cette perte de contact-là individuel entre les gens, puis en même temps la résilience de ce peuple-là. Est-ce qu'il y a eu des chocs culturels, justement, quand au retour?
Ah, il y en a eu tellement, tu sais. Puis même pas juste au retour, mais pendant, parce que souvent les projets humanitaires sont financés par chez nous, c'est des subventions, là, mais à l'international, c'est plutôt par les riches puis les ultra-riches, parce que les subventions n'existent pas souvent dans un pays. Donc, je peux être j'ai un véritable exemple, anecdote. Je me rappelle avoir été dans la même journée avec des réfugiés qui étaient tellement dans la misère qu'ils essayaient de me vendre leurs organes pour survivre. Puis le soir, je suis dans un manoir avec des diplomates, des millionnaires qui boivent du champagne avec un valet au gant blanc qui me donne des bouchées parce qu'on n'a pas le choix comme de convaincre ces gens-là de donner dans un projet si on veut que ça continue. C'est des chocs et puis des incohérences constamment. Mais tu me parles d'Haïti, puis c'est mon pays préféré. Haïti, mon pays préféré. Je pense que si on avait la résilience, l'attitude des Haïtiens, on réglerait tous les plus grands problèmes de la planète. Je pense que la solution pour sauver le monde, peu importe ce que ça veut dire sauver le monde, c'est d'être plus haïtien. Les Haïtiens là sont d'une solidarité, d'un courage, d'une résilience exceptionnelle. Et là, ça, je pourrais prendre bien plus que 15 minutes pour parler de ça, mais plusieurs heures, à quel point j'ai une admiration pour Haïti et les Haïtiens. Ça fait que moi, je reviens surtout, oui, à des chocs culturels, mais avec des inspirations et des motivations qui viennent de différents individus, de différentes cultures, notamment Haïti. Ça fait du bien de regarder ailleurs que son propre nombril, que sa propre culture, son propre pays. Parfois, j'ai l'impression que ça m'apporte énormément.
Tellement. Quelle richesse de se parler. Puis, je vais passer le message ici à la programmation parce que on a des émissions, entre autres, Afrique-Caraïbe, où il y aurait sûrement, ça pourrait sûrement de pouvoir explorer ce volet-là. Ça pourrait sûrement être intéressant. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le titre « Un sourire à la fois » aux éditions La Galère et ça s'appelle « La caravane philanthropique » qui est présent dans les réseaux sociaux, c'est internet. Caravane philanthrope. Oui.
J'ai envie de rajouter, si je peux me permettre, que le livre « Un sourire à la fois » récit d'un clown humanitaire, 100% des profits vont à nos projets humanitaires. Il n'y a pas une scène qui me revient à moi ou à la maison d'édition.
Que d'inspiration. Vous voyez, chers auditeurs, c'est pour ça qu'on fait les héros anonymes. C'est pour recevoir des Guillaume Vermette. Et si vous en connaissez, contactez Catherine Bourderon, notre recherchiste, qu'on remercie. On remercie également Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Il fait beau ces temps-ci au Québec, alors je vous invite à réécouter nos épisodes des héros anonymes sur canalem.vusezvoix.com et également sur les différentes plateformes de balado-diffusion. On aime présenter des gens aussi inspirants que Guillaume Vermette. Merci d'avoir été là. Bye bye.